Donc, la deuxième intervenante de cet après-midi, c'est Claire Robert, docteur en lettres et journaliste indépendante. Son intervention a pour titre « Paysans et nature dans le sillon du Dauphin, un monde à l'épreuve de la modernité ». Je vous mets au défi de traduire « Dauphin ».
On va essayer. Donc, bonjour à tous et à tous. Je me présente d'abord. Je suis donc Claire Robert. Je vis dans le sud d'Essonne, assez loin de Paris quand même, presque au Vert. Je suis journaliste indépendante. J'ai travaillé 25 ans pour les mairies, les agglomérations, pour des villes très pauvres, dans les Yvelines et dans l'Essonne. Et je suis par ailleurs effectivement docteur en lettres, ça c'est pour crâner. Juste pour dire, avec ma thèse, je suis partie à la recherche des écrivains pionniers de l'écologie. Donc forcément, ça va un petit peu orienter mon propos par rapport à Michel Ragon. Je suis passionnée par les rapports homme-nature et par l'écologie sous toutes ses formes, mais aussi l'écologie pratique, celle qui se vit aussi concrètement. Et je vais me permettre de rappeler aussi comment j'ai rencontré Michel Ragon. Je voulais d'abord remercier les personnes qui m'avaient invité ici, notamment Raphaël Romney, Thierry Maricourt, Françoise Ragon. Au passage, je voulais dire un grand bravo à Françoise pour son exposition à La Roche-sur-Yon, qui était vraiment magnifique. Et je lui ai volé quelques photos pour mon petit diaporama. Ouais, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop. Je voudrais remercier aussi Anna Thémodeau qui a été la sympathique conférencière qui m'a vraiment rafraîchi la mémoire sur toutes les facettes de Michel Ragon pendant l'exposition, qui nous faisait le guide de l'exposition. Et puis je remercie aussi les manifestations de retraite de 2023 parce que c'est là que j'ai rencontré Raphaël Romney à un feu rouge. Il avait sous le bras sa revue Fragments, revue de littérature prolétarienne, ça s'invente pas quand même, et ça m'a évidemment beaucoup intriguée. Donc après, ça a du coup donné quelques suites. Et voilà, donc les remerciements, c'est quand même ce que je voulais pas oublier déjà. Et voilà, donc ce colloque est aussi pour moi l'occasion de parler de Michel Ragon, que j'ai bien connu et qui comptait beaucoup pour moi. En quelques mots, comment je l'ai rencontré. En 94, je suis en maîtrise de lettres à la Sorbonne. Je viens de la banlieue et je ne suis pas très à l'aise, à vrai dire, dans le milieu parisien que je fréquente. Je le trouve forcément assez élitiste. Et je dois trouver un auteur pour mon mémoire de fin d'études et je m'interroge. Où sont passés les écrivains non bourgeois à l'université ? Où sont les banlieusards ? Où sont les autodidactes, les hors-classes, les hors-normes ? Où sont les femmes ? Donc je voulais, vous l'aurez compris, sortir un peu du cadre, sortir des grands auteurs classiques en fait. Donc en traînant à la librairie Publico, oui parce que j'avais des lectures quand même assez orientées, je tombe sur le livre de Thierry Maricourt, que je rencontre pour la première fois aujourd'hui. Page 344, le parcours incroyable de Michel Ragon. Une sorte d'aventurier de la vie, en somme. Donc, pour une jeune femme de 22 ans, c'est assez impressionnant. Je suis très épatée par son parcours, évidemment. Et j'ai le sentiment d'avoir trouvé mon auteur. Je choisis d'étudier la culture populaire dans le cycle vendéen de Michel Ragon. Mon sujet est accepté, certainement sur un malentendu. Mon directeur de mémoire ne connaît pas Michel Ragon. Et en fait, je pense qu'il ne se doutait pas que c'était une façon discrètement de le faire entrer par la petite porte de la Sorbonne. Donc, mon mémoire, donc je vous ai mis mon mémoire, je me suis permise de vous le montrer, non pas que je veuille prouver qu'il existe, mais simplement pour vous montrer à quoi ça ressemblait dans les années 94. avec une couverture rouge, hein, bien sûr. Je n'avais pas oublié ce détail. Et voilà, je reçois une belle mention pour ce mémoire, hein, très bien. Mais la mention que j'attends le plus, évidemment, c'est celle de Michel Ragon. Donc je me décide à lui apporter chez lui à Paris. Donc c'est comme ça que je le rencontre pour la première fois. L'impression que j'ai de Michel Ragon, la première impression que j'ai de lui, c'est quelqu'un d'aussi timide et discret que moi. Et aussi son côté déterminé et pince sans rire. C'est quelque chose qui m'a frappée tout de suite. Donc en novembre, suite à cette rencontre avec lui, je reçois une très belle lettre de Michel Ragon où il me dit « J'ai lu avec plaisir et étonnement votre mémoire ». Et il s'ensuit bien sûr deux pages d'analyse de mon mémoire, très assez pointu. Et voilà, et bien sûr, ça fait du bien à la jeune femme que je suis et qui a besoin d'encouragement. Donc la lettre, je vous l'ai mise aussi. c'est pour montrer, comme Sarah disait, que voilà, les lettres de cette époque se faisaient donc à la machine, mais elles faisaient toujours même après. Mais c'est pour vous montrer le type de lettres que Michel Ragon voyait. Voilà. Et à partir de ce moment, donc, je vois Michel Ragon chaque année au Salon du Livre, puisque bien sûr, il s'y tient chaque année, puisqu'il il publie un livre par an, invariablement, et qu'il est toujours fidèle à son poste. Et je me rappelle d'une de ses phrases où il m'avait dit comme ça dans le creux de l'oreille, « Les gens veulent voir leurs auteurs sans réaliser que le meilleur se trouve dans leurs livres ». Alors en 2009, je lui envoie ma thèse sur les écrivains pionniers de l'écologie. Bien sûr, c'est une lettre qui est à nouveau pleine d'éloges quand qu'il m'envoie quelques temps après. Et surtout, il m'encourage parce que je suis dans une période difficile de ma vie. Et il me dit, vous avez la vie devant vous, profitez-en. Et je ne me rends pas compte que lui, il a 85 ans, mais je ne réalise pas son âge. Les dernières années, nos rencontres s'espacent. Je me rappelle bien sûr d'une belle après-midi à la campagne avec Françoise. Je me suis permise aussi de mettre la photo. Et en fait, je l'ai mise parce que en fait, j'ai demandé à Michel Ragon s'il voulait bien faire une photo de nous deux. Voilà. Et j'ai posé l'appareil photo sur une table et on a mis le retardataire. Et j'ai pensé que ça n'avait pas marché. Et si, ça avait marché. Et ce qui m'a amusée, c'est son air malicieux, on peut le reconnaître tout de suite. Et il y a une autre photo juste après où il est... Je trouve que c'est exactement lui. Il avait ce côté un peu malicieux, quoi. Plein de malice, on va dire, plutôt. Voilà, donc la dernière visite que je fais à Paris pour le voir, il se plaint bien sûr du grand âge, surtout de la mémoire qui flanche, d'une très grande fatigue sans remède. Et au mur de son appartement parisien, j'ai l'impression que les grands noirs de Soulages donnent le ton. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des romans vendéens. Excusez-moi, je suis obligée de boire un peu. Alors, ces romans vendéens, il les a écrits donc entre 1984 et 1996. Il s'agit bien sûr des Mouchoirs rouges de Cholet, de La Louve de Marvan, du Cocher du Boiroux et des Coquelicots sont revenus. Ce dernier roman, il est plus récent, il est de 1996 et c'est bien sûr le prolongement de sa grande fresque familiale autour de l'ancêtre d'Auchagne. Comme le disait Robert Sabatier, c'est un peu les Ragon-Macquart de Michelet. Et c'est un mot que je pensais avoir trouvé, mais non, c'est Robert Sabatier, il l'a dit avant moi, donc tant pis. Et donc, pour ces romans, en fait, on peut dire qu'ils sont vraiment passionnants à plus d'un titre, d'un point de vue littéraire, bien sûr, hein, le style est savoureux. C'est un mélange de documenté, de didactisme et de franc-parler, d'expressions populaires, de dialogues très savoureux. C'est aussi des romans qui ont une grande qualité historique, hein, puisque c'est la relecture de la Vendée rebelle. C'est une lecture aussi qu'on peut faire sociologique, voire ethnographique, on y reviendra. C'est une lecture qu'on peut faire aussi politique de ces romans. Et enfin, j'ajouterais écologique, Mais oui, écologique. Donc, je rappelle le contexte de ces romans vendéens. On sait que Michel Ragon, en 1980, écrit L'accent de ma mère, avec l'épisode du téléphone où il entend sa maman, et avec la distance du téléphone, il perçoit son accent. Entre parenthèses, je rappelle ici aux Parisiens, s'il y en a, qu'ils ont aussi un accent, le parler pointu. En tout cas, c'est ce qu'on dit au Sud. Et donc Michel Ragon, lui, veut renouer avec la littérature et avec sa culture d'origine vendéenne. Et il parle d'ailleurs d'une poétique de sa mémoire. Et voici ce qu'il écrit dans le magazine littéraire. « Le mythe de la culture universelle, élitaire, pendant 3 siècles, a coupé les paysans, les artisans, puis les ouvriers des sources de leur propre culture. On a bridé chez eux tout moyen d'expression. » On a détruit en un mot leur identité culturelle. Donc en un mot, Michel Ragon veut réhabiliter toute une culture, celle d'un peuple. Alors la culture pour Michel Ragon, rappelons-le, ce n'est pas seulement une somme d'œuvres et de connaissances, Sarah l'a dit aussi, c'est un ensemble de gestes, d'activités du quotidien, de savoir-faire et de savoir-vivre. Ce sont aussi les mentalités, les mœurs, les croyances, donc tout cela étant constituant une culture à part entière. Donc cette approche, rappelons-le, sur les romans vendéens, va lui faire adopter une position tout à fait originale concernant les insurrections vendéennes, puisque plutôt que de juger la chouannerie, il va consulter les archives, s'imprégner des modes de vie de l'époque, voir un peu en quoi les croyances et les traditions, quelle prégnance elles ont, et saisir les causes profondes de l'insurrection. Et il en conclut dans ses romans que les soulèvements vendéens étaient à l'origine ni religieux ni aristocratiques, mais foncièrement populaires. Alors pour ceux qui n'ont pas lu, peut-être que vous n'avez pas lu tout, les livres de Michel Ragon, je pense que ça n'est pas possible. Donc, je me suis dit, il y aura forcément des gens qui n'auront pas lu les romans vendéens, donc je vous rappelle juste, je vais essayer de rappeler très brièvement de quoi parlent ces romans. Donc, le premier, c'est Les mouchoirs rouges de Cholet, donc en 84. C'est un roman qui s'ouvre sur un paysage de désolation. L'insurrection vendéenne de 1796 a littéralement écrasé tout le village. Tout est à reconstruire au village. L'ancêtre d'Auchagne a survécu en se cachant au creux d'un vieux chêne, d'où le nom de d'Auchagne. Et donc cet ancêtre d'Auchagne a... Il reconstruit le village avec ses voisins jouants. Et Michel Ragon raconte ainsi le destin des dernières figures de la paysannerie traditionnelle, le forgeron chantant l'hiver, le sabotier de la Gâtine, etc. Et à la fin du livre, tous ces personnages, enfin un certain nombre de ces personnages, sont chassés de leur terre par un nouveau système économique. Dans La Louve de Mervent, donc paru en 85, on retrouve le fils de d'Auchagne, Tête de Loup, et sa femme Louison. Le dernier soulèvement de 1832 a complètement échoué. Les derniers échouants sont condamnés à vivre dans la clandestinité et au fond des bois. Et Tête de Loup et Louison deviennent des chefs de bande et des redresseurs de tort, avant d'être attrapés évidemment par le bagne, où ils disparaissent en même temps que les derniers loups. Dans Le cocher du Boisroux, Monsieur Henri est un ingénieur parisien. Il revient dans le domaine familial, au chevet de son père. Mais tout a changé au château. On est au début du XXe. La Vendée est un pays qui est tiraillé entre ses légendes et puis ses premières luttes sociales. Ernest, le descendant de d'Auchagne, est un meneur de foule, c'est quelqu'un d'instruit. Mais il se laisse prendre au sortilège des marais de la Vendée, et c'est ainsi que se termine le roman. Enfin, le roman Les Coquelicots sont revenus. Déjà, avec son titre, on comprend qu'une nouvelle page d'histoire peut s'écrire pour le monde paysan. Un monde qui est abîmé par la révolution agricole, les machines et les pesticides. Le vieux Paul, l'ancêtre des d'Auchagne, regrette le monde traditionnel. Son fils Grégoire, lui, a repris la ferme et pratique l'élevage moderne. Antoine, le fils cadet, est le dernier berger itinérant du bocage. Et Patrick est un céréalier industriel. Quant à Albert, c'est un fermier écolo en polyculture. Donc chacun dans ce roman a choisi un modèle agricole, mais tous doivent s'adapter au marché, mondialiser, se soumettre ou lutter. Donc ce que je voudrais dire en premier, c'est que dans les romans de Michel Ragon, la nature, qu'elle soit sauvage ou domestiquée, est omniprésente. Dans Les Mouchoirs Rouges de Cholet, c'est le bocage qui structure vraiment le roman. Dans La Louve de Mervan, c'est la forêt. Et dans Le Cocher du Bois Roux, ce sont les marais. Dans Les Coquelicots, ce sont les campagnes agricoles. On peut dire que la vie des paysans est étroitement liée à celle de la nature. Les vies humaines, animales et végétales sont intriquées. Dauchagne, on l'a dit, blotti au cœur de son chêne, prend au fil des jours la couleur et la forme de son arbre. C'est un curieux processus de contamination qui s'opère. Dans Le Cocher du Bois Roux, la nourrice est une chouette, la fille de cuisine est une chèvre, les domestiques sont les chiens de leur maître. Dans Les Coquelicots sont revenus, on retrouve aussi cette intrication. Le berger et ses moutons se confondent, ils ne forment qu'un seul grand corps en mouvement. Ainsi, les vies sont traitées sur le même niveau, sur un même plan. Il semble qu'il n'y ait pas d'hierarchie entre les êtres vivants. Aucun ne semble supérieur à l'autre. De ce point de vue, on peut dire que Michel Ragon remet l'humain à sa place et se détache d'une vision anthropocentrique du monde. Et puis, autre chose, on observe que le destin de la nature est presque toujours solidaire de celui des paysans. Autrement dit, la disparition de la culture populaire et paysanne est souvent concomitante avec celle de la nature. Dans Les Mouchoirs Rouges de Cholet, la destruction du bocage signe la disparition progressive des sociétés traditionnelles et des êtres vivants liés à ce type d'écosystème. Dans La Louve de Mervan aussi, la condamnation des marginaux, tous ces derniers rescapés de la révolte vendéenne, annoncent la disparition des derniers lieux de sauvagerie, des loups, et puis plus tard, de la forêt. Dans Le Cocher du Bois Roux, les marais représentent eux aussi cette nature indomptée, incontrôlable, irrationnelle. Ils sont eux aussi voués à disparaître. Mais là, Michel Ragon s'amuse un peu, et il prend en quelque sorte une revanche symbolique sur la modernité. Il abandonne son personnage de Monsieur Henri au sensu. Enfin, dans Les Coquelicots sont revenus, la maltraitance des animaux précède de peu celle des hommes. Hommes et vaches sont condamnés à l'abattoir de la même façon. En conclusion, quand on détruit la forêt, le bocage, le marais, quand on défigure la campagne et qu'on exploite terres et animaux, c'est aussi le paysan et sa culture qu'on écrase, qu'on asservit et qu'on déshonore. Rappelons d'ailleurs que les paysans et paysannes sont bien ceux qui prennent soin d'un pays, d'un paysage, d'un écosystème. Donc c'est un monde paysan au bord du gouffre que nous propose Michel Ragon. Autrement dit, proche même, on pourrait dire, du suicide. Les Coquelicots sont revenus, s'ouvrent sur le suicide du vieux Louis. Pourquoi ? Parce que le vieux Louis se voit privé de ses terres pour cause de remembrement, puis de son potager et de son verger pour élargir les routes. Il comprit, c'est Michel Ragon qui parle. Il comprit que ses chemins creux seraient comblés, que ses haies seraient arasées, ses chênes têtards tronçonnés, ses enclos ouverts. C'en est donc trop pour le vieil homme, il préfère se pendre dans la grange. Et c'est ainsi que s'ouvre le roman de Michel Ragon. Pour protester contre le suicide du vieux Louis, les paysans de la région déversent des tonnes de purins dans la cour de la sous-préfecture. Ce qui rappelle quelques petites anecdotes récentes. Et Michel Ragon, d'ajouter avec malice, c'était leur nouvelle manière de chouaner. Ainsi, il renoue avec la famille d'Auchagne et ses précédents romans, avec l'histoire de la Vendée, avec l'écrasement toujours renouvelé du monde paysan. Et le suicide, on peut dire, est comme un spectre qui plane sur le monde paysan et qui revient régulièrement sur la plume de Michel Ragon. On n'en parle pas, sans doute parce que le suicide des paysans n'est pas un accident, mais une fatalité. Page 45. Mais alors, que s'est-il passé pour que le suicide soit vécu comme une sorte de fatalité dans le monde paysan ? Alors, de ce point de vue, on peut dire que Michel Ragon dresse un état des lieux sans concession du monde paysan moderne. Et c'est là que je dirais que son roman paraît tout à fait visionnaire. Et on en a eu l'écho ce matin avec la lecture de Florence. C'est vraiment un livre qui est très étonnant à relire aujourd'hui à la lumière des dernières crises dans le monde agricole. Il dresse en effet de manière presque exhaustive toutes les problématiques qui secouent le monde agricole d'aujourd'hui. Tout y passe. La transformation des paysages d'abord, ces territoires qui sont aménagés, désenclavés, dépecés. Les chemins et routes et grands travaux qui modernisent les campagnes et qui finalement acculturent les communautés traditionnelles. Dans Les Mouchoirs Rouges de Cholet, Michel Ragon parle de ces routes qui venaient casser le bocage, l'empêchant de devenir un sanctuaire impénétrable. Ces routes, tentacules de pieuvres, dont la tête et le cœur se tenaient dans les villes. Ces routes qui imposaient la mainmise de l'urbain sur le rural, du citadin sur les paysans. Il est aussi question dans son roman de l'exode rural et de la désertification des campagnes. Artisans, gardes champêtres, curés, boulangers, épiciers et même écoles, tous disparaissent. Un monde où les distractions sont celles de la discothèque et du supermarché. L'hypermarché, écrit-il, remplaçait à la fois la messe à l'église, fermée, la foire, oubliée, les halles, le cirque qui ne s'installait plus. Page 228. Ce phénomène de désertification des campagnes est accueilli d'ailleurs avec un certain fatalisme. Ce fatalisme qui, selon Michel Ragon, est aussi une caractéristique de la culture populaire. Il faut parfois être un peu fataliste pour accepter des situations très difficiles. Il raconte aussi le remembrement, l'agrandissement des fermes, la toute-puissance des machines agricoles. Voilà ce qu'en dit Michel Ragon. Le remembrement répondait en réalité à un plan de bataille conçu par les fabricants de machines agricoles, par les industriels de la chimie et des firmes agroalimentaires pour faire franchir aux paysans cette frontière qui les mènerait inexorablement vers la modernité. Page 136. La ferme de Patrick, céréalier sur une centaine d'hectares, spécialisée à l'extrême, ressemble à une manufacture. Concernant la mécanisation de l'élevage, Michel Ragon parle des robots qui envahissent la vie des éleveurs. Il écrit « Un robot, le Diabolomanus, faisait désormais office de veau et vidait les mamelles en self-service 7 ou 8 fois par jour. » Le monde agricole est donc soumis à la tyrannie des rendements. Des rendements toujours plus forts, comme pour les courses de vélo et les matchs de foot, ironise Michel Ragon. Un monde où Patrick et Grégoire ne prenaient plus de congés, travaillaient le dimanche et la nuit à la lueur des phares. Page 50. Cette mécanisation et cette course au rendement s'accompagnent d'une accélération du temps et des modes de vie. Jadis, les paysans travaillaient beaucoup, mais ils travaillaient lentement, commente Michel Ragon. Tandis que maintenant, les agriculteurs courent toute la journée, comme tout le monde court, à l'usine, au bureau, dans la rue, à l'école. Il faut être performant, il faut battre des records. Alors Michel Ragon n'oublie pas aussi de dénoncer bien sûr l'endettement. Son personnage Albert prévient ses voisins. Depuis 1960, l'endettement des paysans est passé de 9 à 60 milliards. C'est la faillite au bout du chemin, les gars. Il décrit aussi la toxicité de la bureaucratie et l'absurdité des directives hors sol. Donc on pense bien sûr à l'épisode du veau aux hormones, mais ensuite de la vache folle, des quotas laitiers, puis des jachères obligatoires. Tout y passe dans le roman Les Coquelicots. Sur la bureaucratie, d'ailleurs, il écrit « Le gratte-papier est un monstre qui insidieusement, sans bruit, rongeait le corps social. » Sur l'épisode du veau aux hormones, Michel Ragon ironise. Heureusement pour les paysans, les citadins ignoraient qu'ils mangeaient la plupart du temps des animaux malades. Sur celui de la vache folle, son personnage Albert alerte son voisin sur la nourriture qu'il donne à ses vaches. « Dans tes sacs, cette farine qu'on te livre, c'est de la poudre de viande. » Et avec l'épisode des quotas laitiers en 86, Grégoire l'éleveur se voit imputer des pénalités pour avoir produit trop de lait, un comble. Les jachères obligatoires, les céréaliers sont visés à leur tour. 15% des terres cultivables doivent être gelées. Un non-sens pour le céréalier Patrick. Donc au-delà des tracasseries administratives, de ces directives européennes et hors sur la européenne, oui, Michel Ragon critique surtout, on l'a compris, la grande machinerie capitaliste. Dans les coquelicots survenus, il expose clairement les causes politiques et géopolitiques de la crise agricole. Il parle notamment du rêve de ces Cassandres de l'agriculture, comme il les appelle, qui rêvent de spécialiser à outrance les territoires. Donc, pour ces technocrates, le bassin parisien pourrait produire tout le blé du pays. Et même 3 départements bretons pourraient fournir tous les animaux comestibles. Il dénonce aussi la concurrence organisée entre les modèles agricoles. Les céréaliers et les éleveurs finissent par se faire concurrence. Et pire encore, la mondialisation des échanges organise la concurrence entre les paysans du monde entier. Je cite un passage, « Patrick ne savait pas quoi faire de son blé et Grégoire, son voisin, nourrissait ses vaches avec des PSC venus de l'autre bout du monde. » Et le système se retourne contre les paysans des pays riches. Mais voilà que les pays de la pauvreté prenaient leur revanche, qu'ils vendaient des produits riches à des prix de pauvres. Ainsi, concurrencé par la Chine, son personnage Patrick doit jeter en décharge toute sa production d'ail. C'est donc un système absurde qui marche sur la tête. Donc, qui marche sur la tête, ça m'a fait penser à quelque chose, donc je vous le soumets. Alors c'est après ou avant? C'est ça. C'est le monde qui marche sur la tête. Donc Michel Ragon, il brosse un tableau bien sombre du monde paysan, aux prises bien sûr avec un système capitaliste et productiviste absurde, et auquel s'ajoutent les premières catastrophes écologiques. Donc ces premières catastrophes écologiques sont elles aussi entrevues, prédites et par Michel Ragon. On s'aperçoit notamment que, alors elles concernent tous les secteurs dont on parle aujourd'hui et qui sont déjà énoncés dans son roman, le climat, les sols, la biodiversité, les eaux, les écosystèmes et la maltraitance du vivant. Sur le climat, Michel Ragon parle d'un... Il s'amuse avec ses personnages, bien sûr. Il raconte un été 76 qui est torride, qui est suivi d'un automne qui est diluvien. Et Michel Ragon commente « Le modèle de développement économique agricole dans lequel il avait cru aveuglément se montrait incapable d'assumer un accident climatique. » Page 58. Dans le roman, les sols se dégradent aussi. La terre s'effritait en poussière entre ses doigts. La terre était devenue une matière neutre qu'il fallait revivifier sans cesse avec des engrais, des oligo-éléments. Ça, c'est page 44. On pense ici aux terres mortes de la Beauce, hein, qui ont été étudiées par Claude et Lydia Bourguignon, les microbiologistes des sols. Et la biodiversité dans le roman de Michel Ragon est menacée aussi. Les animaux de la ferme ont disparu. Les paysans ne connaissent plus les plantes comestibles. D'ailleurs, le vieux Paul s'en désole. Il dit « Il existe des milliers de plantes comestibles », s'obstinait à répéter le vieillard. « Tu verras, toi, quand tu seras grand, tu ne mangeras plus que des pop-corns. » Il dit ça à son petit-fils qui, du coup, est très content. Alors la biodiversité animale est touchée aussi. Même Grégoire, l'éleveur industriel, s'interroge sur cette perte. Pourquoi avoir éliminé la presque totalité de ces 250 races bovines qui perpétuaient la diversité des troupeaux européens? Les eaux, elles aussi, sont polluées et le paysan est accusé de devenir un pollueur. Nous avons empoisonné tous nos puits, tous nos ruisseaux, tous nos étangs. Il n'y a pas de quoi crâner, prévient Albert. Quant aux écosystèmes propres à chaque territoire, ils ne sont pas pris plus en compte par l'agriculture industrielle. Aveuglés par le productivisme américain, nos agronomes ont prôné un modèle unique de production pour nous tous, alors qu'en France, il existe plus de 200 types de sols contre 2 ou 3 aux États-Unis. Et enfin, ce qui devait arriver arrive, la machine se grippe. Et c'est l'occasion pour Michel Ragon d'ironiser sur le monde industriel de l'aviculture, un système qui permet de transformer les céréales en poulet. Un système, bien sûr, qui part en quenouille. Dans l'usine à ponte, les poules souffrent de la chaleur, il faut arroser les bâtiments, incinérer les victimes par centaines la nuit. Patrick et sa femme, ces personnages, sont dépassés, exténués, et d'ailleurs, ils finiront par jeter l'éponge à la fin du roman. Et comble d'horreur, le paysan maltraite le vivant dans des conditions indignes. Michel Ragon parle de l'essimage des champs de maïs et il dit « on castrait le maïs comme Antoine castrait ses béliers ». Et ça n'est pas mieux pour les volailles puisque dans l'usine à ponte et à viande blanche de son personnage Patrick, 90 000 volatiles travaillent à la chaîne dans le noir. Michel Ragon parle même de véritables camps de concentration appliqués à l'élevage domestique. Donc, face à cet état des lieux qui est quand même très sombre, et c'est un roman qui est assez rude hein, sur le monde paysan et il brosse un tableau très noir de ce monde paysan. Et du coup, on se demande si dans ce roman, on peut échapper, survivre, s'adapter, se transformer, en gros, échapper à cette grande machinerie capitaliste. Alors, la réponse est quand même assez positive, c'est oui. Il y a quand même des voies dans ce roman pour échapper à cette machinerie capitaliste. Donc, la première voie que j'ai bien sûr entrevue, dont on a déjà parlé, c'est l'instruction, hein, qui est bien sûr en lien avec le parcours de Michel Ragon. C'est par l'acquisition d'une instruction, de connaissances et d'une culture savante que ces personnages peuvent s'élever, s'émanciper. Donc, c'est ce qu'on remarque dans tous ces romans, bien sûr. Il y a toujours un personnage en fait, atypique dans ces romans qui est comme un passeur entre la culture populaire et la culture savante. C'est un passeur qui éclaire ses amis sur la situation et qui propose en général une analyse politique très, très aiguisée. Donc, dans Les Mouchoirs Rouges, ben, c'est le sabotier de la Gâtine, par exemple, qui est un libre penseur. Dans La Louve de Mervan, c'est bien sûr le redresseur de tort, Tête de Loup. Dans Le Cocher du Boiroux, c'est Ernest, le descendant de Dauchagne, qui est un meneur de foule. Et puis dans Les Coquelicots, c'est Albert, le paysan syndiqué qui a choisi une autre voie pour sa ferme. Donc, d'ailleurs, ce Albert, il a souvent une analyse très fine de la situation. Et c'est lui qui prévient ses voisins et qui les réveille un petit peu sur la situation et qui rompt un peu avec leur naïveté. Il leur dit « Maître de quoi ? Vous ne choisissez ni la race des bêtes que vous élevez, ni leur bectance que l'on vous fournit. » Et plus loin, ce Albert déclare « La finalité du marché commun n'est pas l'agriculture, elle se conforme aux exigences du capitalisme mondial. » Albert a conscience ainsi que les politiques mises sur la disparition du monde paysan pour asseoir la paix sociale. Il affirme « Le jour où nous ne serons que quelques centaines de mille, on nous coincera. Nous n'offrirons plus une force électorale. Ils feront de nous ce qu'ils voudront. » Donc ces propos en rappellent d'autres plus récents sur la situation actuelle. Donc à travers ce Albert, Michel Ragon, bien sûr, nous livre le fond de sa pensée. Donc ces passeurs entre culture populaire et culture savante sont là pour Michel Ragon, je pense, sont là pour démontrer que le peuple peut s'emparer de la culture savante et en faire une arme en fait d'émancipation. Une deuxième voie possible dans les romans de Michel Ragon, c'est la résistance passive. La résistance passive, c'est le bon sens, l'humour, la ruse, tous ces outils qui sont des outils de résistance passive, où le peuple continue finalement à agir comme bon lui semble, qu'il n'est pas là où on l'attend, qu'il désarme son ennemi par l'humour. Et d'ailleurs, Antoine, dans Les Coquelicots sont revenus, est une figure assez attachante de cette résistance passive. C'est un berger nomade, il a choisi librement son destin, sans faire d'éclat, sans révolte. Et puis, il résiste à sa manière, sans faire de bruit. Et quand les terres viennent à manquer pour ses moutons, il ne se révolte pas, il s'adapte en se mettant au service d'un vieux châtelain. Alors une troisième voie, c'est le soulèvement, bien sûr. Il s'agit des insurrections, on les voit dans les premiers romans de Michel Ragon. L'insurrection est évidemment très présente. Toutes les formes de révolte qui occupent beaucoup de place dans ces romans. Et dans Les Coquelicots sont revenus, elle prend la forme des grèves syndicales, avec l'épisode clé de cette grande grève des années 80, lorsque Bruxelles décide d'autoriser les importations massives de viande. Il y a des milliers d'éleveurs qui se dressent, qui se regroupent, et qui se regroupent notamment sur la place de la Nation, où il y aura 100 000 manifestants. Et donc, Michel Ragon écrit « Le tracteur remplaçait la faux du chouan. Le paysan, industrialisé par le capitalisme, retournait contre le capitalisme l'outil de l'industrialisation. » Donc, un volte-face intéressant, bien sûr. Donc, ces actions collectives sont l'occasion pour ces personnages de vivre des moments forts, des moments pour s'ouvrir à la politique et au militantisme. Et ce sont des moments d'émancipation et d'éveil à la conscience politique. Bien sûr, il y a un côté léger dans ces manifestations, puisque les personnages vivent aussi des moments de camaraderie. Mais derrière le côté bon enfant de ces rassemblements, Michel Ragon n'oublie pas de nous rappeler l'importance de cet échappatoire que sont les grèves, de ce sas de décompression dans l'histoire des luttes populaires, et aussi le passage de relais entre les ouvriers et les paysans. Donc je le cite, « Pendant plus d'un siècle, la vie ouvrière n'avait été rendue possible que par l'échappée des grèves, des défilés revendicatifs ou commémoratifs. Les paysans prenaient maintenant le relais, découvrant la jouissance de la contestation collective, de l'outil déposé, du coude à coude, des chants unanimes, de la lenteur patiente des défilés, de l'attente fébrile du heurt avec la police, de la clameur libératrice des affrontements, de la casse, du sang répandu. » Car oui, les soulèvements ne sont pas toujours pacifiques, évidemment. Et d'ailleurs, on peut se demander si on ne va pas d'un soulèvement à l'autre, entre les romans de Michel Ragon et aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour ces personnages, Grégoire, Patrick et Albert, cette grande manifestation marque leurs esprits. Et même si, bien sûr, ils ne sont pas dupes de la situation. Et là, je vous livre la pensée d'Albert à la fin de cette manifestation des années 80, où il dit « Toujours l'amalgame voulu par la FNSEA. Elle veut faire croire que tous les paysans se ressemblent, qu'ils ont les mêmes intérêts. Je sais bien que nous sommes ici comme des épiciers de village, que l'on aurait enrôlés pour défendre les supermarchés. Mais quoi faire d'autre? Sans la FNSEA, pas de grande manifestation. » Et en fin de journée, sur la place de la Nation, Albert conclut « Une fois de plus, on s'est fait baiser. Mais quand même, quelle belle journée !» Alors le quatrième volet proposé par les personnages de Michel Ragon, c'est l'action directe. Donc l'action directe, c'est par exemple Grégoire et Nathalie qui doivent payer des pénalités pour avoir apporté trop de lait à la coopérative, qui sont complètement endettés et qui, du coup, pour se faire entendre, s'enchaînent aux grilles de la préfecture. C'est par exemple le fumier, le fameux fumier déversé par tonnes devant les préfectures et ministères. Et c'est aussi l'épisode du kidnapping, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le roman. Donc il y a un conseiller régional qui, dans le contexte des quotas laitiers, qui pense apaiser les esprits en faisant une tournée dans les campagnes. Et puis finalement il se retrouve kidnappé et il passe une nuit dans la ferme. Donc en cela, Michel Ragon avait aussi entrevu les nouvelles formes de résistance et de soulèvement qui peuvent prendre toutes ces formes. Elles sont souvent très spontanées, animées par la colère, la peur, le sentiment de justice. Mais aussi, elles peuvent prendre la forme de grandes fêtes médiatisées ou de recours à la désobéissance civile. Et enfin, je voulais vous exposer simplement les voies possibles qui sont tracées par Michel Ragon à travers des figures de personnages, plusieurs figures de paysans. Ce sont, je pense, les alternatives que nous propose Michel Ragon pour le monde paysan de demain. J'ai repéré donc, d'une part, le paysan traditionnel qui est incarné par celui du vieux Paul. Donc, le vieux Paul représente ce monde traditionnel avec son ensemble de savoir-vivre qu'il hérite de ses ancêtres. Donc, il y a une certaine nostalgie dans ce personnage, bien sûr. Mais régulièrement, ce sont quand même des choses qui... Cette vie traditionnelle est régulièrement redécouverte. Même aujourd'hui, il y a toujours cette attirance aussi pour ce vieux monde avec ses vieilles façons de faire. Voilà. C'est le vieux Paul qui parle de la souillarde, de la laiterie qui s'entêle les cahiers, etc. Et puis on a aussi cette figure intéressante du berger philosophe, donc qui est incarné par Antoine, le fils cadet d'Auchagne. Donc lui, c'est un paysan sauvage, nomade, libre. C'est un homme solitaire qui tourne le dos à la modernité et à la société de consommation. Sa vie s'écoule calmement dans une grande sobriété. Michel Ragon le décrit comme de plus en plus maigre, de plus en plus sec, de plus en plus indifférent aux convulsions du monde. Sa lente marche à la recherche d'herbes folles allait à l'inverse de la marche de l'univers. Il prenait son temps. On sent que Michel Ragon a de la sympathie pour cet homme qui est peu adapté à la société moderne, mais qui reste droit et libre dans ses choix, tout en étant gentil et généreux. C'est un mélange de ténacité et de fatalisme, on en a déjà parlé. Il a quelque chose du paysan éternel, philosophe et je dirais contemplatif. Ensuite, j'ai repéré cette figure assez étonnante du paysan aubergiste qui serait incarné par le fils d'Antoine, qui est une figure qui reste attachée à sa terre d'origine, mais qui se tourne vers le tourisme. Il est gestionnaire d'un golf et il a des idées pour le développement de sa région. C'est d'ailleurs ce qu'il explique au vieux châtelain. Il lui dit « Vous devriez transformer vos fermes en stations de campagne, comme il y a des stations balnéaires ou des stations de sport d'hiver. L'agriculture, c'est fini. Le tourisme campagnard commence. » Vendre du service, de l'environnement, des fermes auberges, du gîte rural, il existe tout un nouveau marché. Et puis enfin, il y a la figure de ce Albert, paysan écolo en polyculture. Donc là, Michel Ragon nous propose un modèle très en vogue. On peut dire qu'il est en avance sur les micro-fermes. On est en 96, il est quand même en avance, Michel Ragon. Et donc Albert, c'est un fermier d'une quarantaine d'années. Sa femme a fait le chemin inverse des filles de la campagne. Elle était ouvrière dans le textile, et puis citadine, et puis elle revient à la campagne. Ils ont cinq enfants, donc c'est quand même signe d'un certain optimisme. Et la famille respire la joie de vivre. Pour autant, ils ne vivent pas en autarcie ou repliés sur leur famille. Leur petite ferme est à l'initiative d'une CUMA, une coopérative qui mutualise le matériel agricole. Et Albert est très investi dans les actions collectives du syndicat, puisqu'il enrôle tous ses voisins dans les grèves. Ainsi, dans les dernières pages du roman de Michel Ragon, je dirais que Michel Ragon nous livre une vision possible, réenchantée du monde paysan de demain. Chez Albert et sa femme, on replante des haies, on conserve des prairies naturelles, les oiseaux sont nombreux dans les pommiers, on travaille dur mais à son rythme. « Je me laisse vivre », déclare Albert. On pratique la philosophie du « small is beautiful ». L'avantage d'être petit, c'est qu'on ne vous regarde pas, qu'on ne vous remarque pas, vous ne faites d'ombre à personne. La ferme mise sur la qualité plutôt que la quantité, sur la patience et l'humilité plutôt que sur la fuite en avant, et sur un mode de vie décroissant basé sur un prix équitable. Finalement, Albert n'a qu'un seul tort, c'est d'avoir raison avant tout le monde, au syndicat comme à la ferme. Il est à contre-courant de ses voisins, il invente même la cueillette par les consommateurs eux-mêmes, et puis il défend les jachères pour les repos des sols et la production de miel. Et c'est bien dans la bouche de ce personnage, Albert, que Michel Ragon distille l'espoir des coquelicots. « Tu as vu dans les jachères ?» s'exclama joyeusement Albert. « Les coquelicots sont revenus ?» On peut peut-être montrer les coquelicots que j'ai pris exprès pour vous. Donc oui, les romans de Michel Ragon, de mon point de vue, parlent d'écologie. Une écologie qui n'est pas celle des naturalistes ou des botanistes ou des scientifiques, ni des partis, mais une écologie sociale et humaniste. À travers le cycle vendéen, depuis les chouans, donc ces chats huants, jusqu'aux coquelicots, les personnages se passent le relais de la lutte pour leur culture, celle du monde paysan et celle de leur lien avec la terre. Et dans le dernier roman, Les coquelicots sont revenus, Michel Ragon se montre visionnaire. Il annonce tous les enjeux du monde paysan actuel. Car les paysans et la nature ont un destin commun, et la destruction de l'un annonce celle de l'autre. Mais cette destruction n'est pas inéluctable, puisqu'il prédit lui-même le retour des coquelicots. Donc les coquelicots, ce sont ces plantes vivaces qui ont coévolué avec les céréales de l'homme. Et Michel Ragon me semble en avance sur Fabrice Nicolino, par exemple, qui réclame dans son livre « Nous voulons des coquelicots » en 2018. Il est en avance sur la mobilisation citoyenne de 2020, « Nous voulons des coquelicots », qui exige l'interdiction définitive de tous les pesticides de synthèse. Et donc, je me disais qu'il y a 30 ans, je rencontrais Michel Ragon autour des enjeux de la culture populaire, avant de partager avec lui l'écologie sensible et libertaire. Et en fait, en somme, c'est celle que redécouvre au soir de sa vie le vieux Gustave dans La ferme d'en haut. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman. Mais ce vieux Gustave, au soir de sa vie, se trouve tout d'un coup happé par la vie, par la planète, et redécouvre un peu la nature. Et il écrit « Les arbres eux-mêmes parlaient ». Parfois, la terre craquait, par coups secs, comme une étoffe qui se déchire. À quoi bon parler quand la nature entière vous fait ses confidences ? Voilà. Merci. Je vais passer la suite. Voilà.
C'était...
J'espère que je n'ai pas été trop longue, je n'ai pas regardé le temps.
Alors, ça n'est pas une question, mais bon, une félicitation pour cette analyse si intéressante. Merci. Et simplement vous signaler que peut-être que certains d'entre vous ont pris à l'entrée une petite brochure qui s'appelle « Hommage à Ragon à Fontenay-le-Comte en Sud-Vendée ». Donc, j'ai apporté ces documents non pas pour vous dire de venir à Fontenay, Paris est bien trop loin, et vous avez dans cette occasion... dans ces journées, l'occasion d'entendre tellement de choses qui vont être diffusées, autres choses, des choses différentes, des choses complémentaires, pendant toute une année, pour que, à Fontenay-le-Comte, la ville de son enfance, les habitants de Fontenay entendent parler de celui qui a passé donc ses 14 premières années là-bas. Et je voulais vous dire que, donc, au cours de cette année, les partenariats ont été multipliés pour essayer de construire ce programme. Et j'ai trouvé, entre autres, un atelier de loisirs créatifs, Saint-Martin-des-Fontaines, qui est la commune d'origine de Aristide, le père de Michel Ragon. Et à Saint-Martin-des-Fontaines, il y a un groupe de petites dames qui se réunissent régulièrement et qui ont proposé de faire des fleurs, des coquelicots rouges en crochet, que je peux diffuser à chaque occasion de conférence à Fontenay, pour sensibiliser tous ceux qui veulent bien porter. J'ai oublié d'en apporter là aujourd'hui, et même d'en avoir un sur ma veste, c'est dommage. Mais voilà, je rebondis juste sur ce que Claire nous a raconté. Les coquelicots sont revenus, et à Fontenay, eh bien, chacun repart avec son petit coquelicot, qui est accompagné d'une, vous savez, des petits rubans sur lesquels on a mis les dates de Michel Ragon. Je vous remercie.
Effectivement, mon ami m'avait conseillé de venir avec un coquelicot, et je l'ai oublié, quoi.
Juste un petit détail, tu évoquais et très très bien Jean-François. Non, j'ai oublié de le dire, c'est le berger, excuse-moi, c'est Antoine.
Antoine. Oui.
Et tu disais que c'était une forme de résistance passive. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que le chien, comme tu le sais, hein, d'Antoine, dès qu'il a été attaché, est mort. Sa servitude lui a été insupportable.
Tout à fait.
C'est ce qui est dit dans le roman. Et je crois que c'est quand même une annonce très, très forte hein, qui nous est suggérée là, sur le devenir aussi d'Antoine, le nomade. Qui lui aussi, en étant domestique, n'aura certainement pas trouvé une voie ou une issue, en tout cas pas celle qu'à mon avis il aurait peut-être souhaité. Voilà, c'est juste ce petit détail.
Effectivement, ironie du sort, il se retrouve à s'adapter à cette nouvelle situation et à finalement se remettre au service d'un châtelain. Et c'est une adaptation qui a ses limites, effectivement.
Merci, merci beaucoup Claire pour cette lecture, c'était vraiment passionnant, d'autant plus
merci.
Que j'ai pas lu Les Coquelicots sont revenus, et donc c'est, ma question vient de là en fait, et donc j'ai évidemment très envie de le lire comme tout le monde, je pense qu'il le connaîtrait pas, parce que moi j'avais une vision du rapport à Michel Ragon à l'écologie, je me disais peut-être un peu critique, parce que vous savez à la fin de La mémoire des vaincus, je ne sais plus si ce sont les enfants ou les petits-enfants de Fred Barthélémy, son militant écolo, et on sent qu'il est un peu dépassé par cette nouvelle forme de militantisme, le vieux Fred Barthélémy, il regarde ça d'un peu loin et de façon un peu critique, il y a presque une dimension péjorative, et donc je m'étais arrêtée là, et donc je découvre que quelques années plus tard, dans Les Coquelicots, ça devient apparemment central, et donc je me demandais si pour toi c'était une évolution, alors tu as déjà dit que c'était un peu présent avant, mais... Voilà, je te pose quand même la question comme ça. Est-ce qu'il y a une évolution de Michel Ragon par rapport au militantisme écolo ? Et est-ce qu'il y a d'autres textes qui parlent d'écologie ? Peut-être pas des fictions, mais est-ce qu'il y a une autre production que tu connaîtrais ?
Alors, moi, je dirais que je pense que Michel Ragon a évolué comme la société a évolué aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il a pris acte aussi d'un certain nombre de changements écologiques, qu'il faut quand même penser aussi que il est de sa génération quand même, c'est-à-dire qu'il a fallu aussi qu'il intègre toutes ces nouvelles données. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il a une connaissance très, très aiguisée du monde paysan, de part bien sûr son histoire et son parcours, mais comme il l'aborde d'une manière très politique et de façon très aiguisée, finalement il arrive à la même conclusion que les écologistes, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément parti de l'écologie, il est parti de sa, pour moi, hein, de sa grille de lecture politique, et en fait étant donné que c'est quelqu'un de très documenté, qui va aller aux sources des choses, qui va aiguiser son regard et analyser les choses de façon très fine, il va finalement dresser cet état des lieux en s'appuyant sur tout ce qu'il sait de par sa proximité avec le monde paysan et avec l'évolution de la société. Et je trouve que ce dernier roman que j'ai relu, du coup, que j'avais lu bien sûr, mais que j'ai relu récemment, m'a vraiment étonnée. Je l'avais pas lu de cette façon si... Enfin, c'est vraiment un livre que je trouve très intéressant, surtout à la lumière, bien sûr, hein, des crises agricoles successives qu'on traverse. Il n'y a presque pas une ligne à changer de son livre sur le roman des Coquelicots. Et d'ailleurs, mon grand-père, agriculteur, avait lu ce livre et l'avait relu une deuxième fois, tellement il était épaté par la clairvoyance de son analyse. Même, je dirais, ça, c'est très étonnant. Voilà, je ne sais pas si Françoise peut nous éclairer sur son évolution sur la pensée par rapport à la nature.
Éclairer sur le rapport à l'écologie, pas plus que clair sur le monde paysan, c'est très bien. Mais Michel, les Coquelicots datent de 2004, 2003
96.
Alors qu'en 75, là il ne s'agit pas de paysannerie, mais il s'agit d'architecture et d'urbanisme, il défend déjà une architecture qui sera écologique.
Oui, oui.
Donc ça, c'était dès 1975 dans les Serres monumentales et dans L'architecte, le prince et la démocratie.
Ouais.
C'est différent, donc évidemment, de la fin de La mémoire des vaincus. Mais je pense qu'à la fin de La mémoire des vaincus, il défend le vieil homme et l'esprit libertaire qui a été quand même un peu vaincu et que les écologistes ne voient pas encore, qu'ils verront peut-être après.
Sur ces belles paroles, on va faire une courte pause de 15 minutes. On va se retrouver, vous aurez l'occasion de rediscuter avec Claire. Merci.